If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
L'événement du mois de novembre, c'est la diffusion sur Netflix de The Other Side of the Wind, le film posthume d'Orson Welles. Nous parlons également des rétrospectives consacrées à Jean Renoir et Ennio Morricone à la Cinémathèque française, ainsi que les ressorties en salle de Breaking Away de Peter Yates, L'Adieu aux armes de Frank Borzeghi, Drôle de frimousse de Stanley Donen et Le Troisième Homme, le chef-d'œuvre de Carol Reed. L'événement donc de ce mois de novembre, incontestablement, est la diffusion sur Netflix à partir du 2 novembre de The Other Side of the Wind, d'Orson Welles, on peut le dire, avec John Huston, Oja Kodar et Peter Bogdanovich. Alors il s'agit d'une reconstruction d'une œuvre inachevée d'Orson Welles, dont le scénario avait été à l'époque coécrit par Orson Welles et sa femme Oja Kodar, l'histoire d'un vieux réalisateur alcoolique sur le déclin qui meurt avant d'avoir achevé son film. Alors, on est au début des années 70. Orson Welles a déjà beaucoup de difficultés à monter ses films après de nombreux déboires aux États-Unis, mais aussi en Europe. Il décide de confier le personnage du réalisateur Jack Hannaford à John Huston, son copain John Huston. Personnage lui-même inspiré d'Hemingway. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il paraîtrait que Orson Welles faisait boire constamment John Huston durant
c'était,
le tournage.
C'était pas difficile.
Mais
hein.
À mon avis, c'était pas la chose la plus difficile sur le tournage, en effet. Un tournage qui devait durer 8 semaines et qui s'étendra sur 6 années, de 1970 à 1976. Peter Bogdanovich, très proche d'Orson Welles dans la vie. Il avait fait, Welles, la voix de son documentaire sur John Ford. Enfin, ils étaient, on le sait, extrêmement proches. Joue le protégé d'Anna Ford dans le film, comme un miroir, évidemment, tendu. Welles voulait, dès le départ, multiplier les points de vue, mixant à la fois le film inachevé d'Anna Ford à un faux documentaire sur sa soirée d'anniversaire, mélangeant tour à tour le noir et blanc, la couleur, le 16 et le 35 mm. Le film est produit à l'époque par les films de l'Astrofort, qui était une entreprise franco-iranienne de Mehdi Boucheri, qui n'était autre que le beau-frère du Shah d'Iran. Le tournage s'avère chaotique, victime à la fois du caractère colérique de Welles et de ses crises d'inspiration. Paranoïaque, le cinéaste finit même par s'emparer d'une copie de travail en l'emportant avec lui à Rome, puis va tenter d'emprunter de l'argent à droite et à gauche en cherchant de nouveaux investisseurs. Le tournage achevé en 76, une bataille juridique s'engage alors avec les films de l'Astrofort, qui, au moment de la révolution iranienne de 1979, empêche les Iraniens de saisir le film. Finalement, après de nombreux déboires successifs, Welles meurt le 10 octobre 1985, laissant donc le film inachevé. S'ensuit alors une longue tentative de reconstruction du film lancée par Oja Kodar. Plusieurs grands cinéastes de renom sont approchés pour reprendre le film, mais ils déclinent les uns après les autres. Un différend éclate alors entre Oja Kodar et l'une des filles de Welles qui empêche les intéressés d'accéder aux 1000 pellicules du film entreposées au laboratoire LTC de Bagnolet. Mais l'intervention des producteurs Frank Marshall, James Kuttner Cole et Philippe Jan Rinza a permis de démêler ces problèmes de droit et l'envoi des bobines à Los Angeles. Le montage, le titanesque travail de montage, est alors confié à Bob Murawski. Après l'échec d'une campagne de crowdfunding menée pourtant par Wes Anderson et Edgar Wright, Netflix arrive finalement à la rescousse et achève la reconstruction du film. Alors, avant d'en parler très brièvement de ce film que j'ai pu découvrir, je voudrais juste citer un avis assez cassant de Bertrand Tavernier sur le projet dans une interview qui a déclaré que selon lui, Welles n'aurait pas voulu que The Other Side of the Wind sorte. Il ne voulait jamais terminer ses films. Selon lui, il était à bout de course. Il n'avait plus de volonté. Et c'est vrai que le film, en le voyant, laisse un tout petit peu circonspect, ne levant pas tout à fait le doute sur la réelle paternité de l'œuvre. Alors on sait que les producteurs nouveaux, Bogdanovich d'ailleurs fait partie de cette équipe, ainsi que le monteur, se sont inspirés des notes que Welles avait laissées d'un premier montage inachevé, fait avec Yves Descamps à l'époque. Mais malgré tout, ce doute ne disparaît pas complètement. Le montage de la soirée d'anniversaire qui est donc entremêlé avec le film, enfin c'est une mise en abîme, hein, puisque c'est l'histoire d'un réalisateur qui présente son film, mais à l'intérieur de cela, il y a un documentaire sur le réalisateur lui-même, ce qui fait qu'on est constamment entre deux fictions, on va dire, et justement le montage de cette soirée d'anniversaire est assez épuisant, fait penser à un assemblage un peu trop fabriqué, on a même parfois l'impression que les acteurs n'ont pas tourné ensemble, mais voilà, ça se ressent un peu. On voit des caméras dans chaque plan ou presque, hein, une succession de bribes de conversation entrecoupées de changements incessants de lieux et de personnages qui donne un peu le tournis et qui finit par lasser, révélateur sans doute évidemment d'un tournage chaotique. En fait, on aurait aimé finalement, enfin selon moi, c'est mon avis, mais voir l'intégralité du film The Other Side of the Wind, le film d'Anna Ford dans le film et le titre du film de Wells, je sais pas si vous me suivez toujours, qui recèle de grands moments de mise en scène, mais je vois qu'Antoine Cyr émet quelques doutes.
Non, mais le récit est intéressant, mais la pensée sinueuse.
Et le film est très sinueux aussi, donc la pensée révélatrice du film, peut-être que ce sera plus clair pour les spectateurs qui donc ne pourront le découvrir que sur Netflix à partir du 2 novembre.
Jake Hannaford,
the Ernest Hemingway of the cinema.
I just want to know what he represents.
The man is infested with disciples. I'm the apostle.
Just like me and God, how could you tell us apart?
Hannaford's new movie?
The Other Side of the Wind.
What's that about the movie?
We don't talk about the movie.
So you old guys are trying to get with it. Is that what this movie's about?
Well, we don't actually know.
What do we know?
Jake is just making it up as he goes along.
He's done it before.
Movies and friendship. Those are mysteries.
Mr. Hannaford, could you please slow down?
Mr. Hannaford!
What he creates, he has to wreck. It's a compulsion.
Want me to bring you another scotch?
We'll have our own movie. A real movie.
The Other Side of the Wind.
Well, here it is. If anybody wants to see it.
Alors, pour vous laisser respirer, mon cher Antoine, je pourrais peut-être parler un peu de la rétrospective Jean Renoir à la Cinémathèque, hein, parce que, évidemment, Jean Renoir, c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma français. C'est à la fois quelqu'un qui a fait beaucoup de critiques sociales à toutes les époques, hein, une carrière qui s'étend sur plus de 40 ans. C'est aussi quelqu'un qui a découvert divers âges du cinéma, puisqu'il y a des films en noir et blanc, et puis il y a des films en couleurs flamboyants comme French Cancan, comme Le Carrosse d'Or ou comme Elena et les Hommes. Et puis, il y a ce qui est extraordinaire quand même dans cette rétrospective, c'est qu'on peut voir à côté des chefs-d'œuvre les plus connus de Renoir, comme La Bête humaine ou comme La Grande Illusion, qui sont des films qui mélangent à la fois un regard social, un regard historique et une formidable vision de l'ironie du sort, hein, ce qui est extraordinaire pour donner l'exemple dans La Grande Illusion, ce moment incroyable où des prisonniers russes en Allemagne voient arriver une caisse énorme qui leur a été envoyée par la tsarine et s'attendent à y trouver des aliments puisqu'ils n'ont pas à manger et qu'ils ouvrent la caisse et dans la caisse il y a des vieux livres. Et ce regard-là de Renoir, il va être présent dans toute sa carrière et le fait de voir toute son œuvre à la Cinémathèque, ça me paraît vraiment extraordinaire. Et puis il y a des films mythiques de Renoir, hein, qui sont pas faciles à voir. Il y a par exemple La Chienne, qui est un film qui va inspirer ensuite un film de Fritz Lang, qui est un film de 1931, qu'il faut absolument aller voir. Je le dis alors même que j'aimerais bien avoir une place pour aller le voir, donc je fais en quelque sorte une publicité qui m'arrange pas. Allez-y parce que c'est vraiment très bien, mais laissez-moi une place. Et puis il y a aussi les films américains de Jean Renoir, dont certains, très étonnants et pas forcément faciles à voir, comme Les Temps Tragiques.
Et toujours en parlant de la Cinémathèque, j'ajoute également qu'il y a un court cycle autour d'Ennio Morricone du 21 au 26 novembre. Une masterclass sera donnée d'ailleurs par le maître italien le 21 novembre et un concert aura lieu à Bercy le 23 novembre. Ennio Morricone évidemment en complément de l'événement Sergio Leone à la Cinémathèque française. Les ressorties cette fois, mon cher Antoine, avec Breaking Away de Peter Yates, alors qui a un titre français peut-être plus connu qui s'appelle La Bande des Quatre, qui est ressorti le 31 octobre en version restaurée avec Dennis Quaid, Dennis Christopher, Daniel Stern et Jackie Earle Haley. L'action du film se situe à Bloomington dans l'Indiana où quatre adolescents issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignant dans une carrière abandonnée, bagarre et drague. L'un d'entre eux, passionné par le cyclisme et l'Italie, va participer à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus de milieux plus favorisés. Le film est à la fois inspiré d'une histoire vraie, hein, celle d'un coureur cycliste américain professionnel, David Blaze, qui avait réalisé les 139 tours sur 200 de la course Little 500 de l'Université d'Indiana, que l'on voit dans le film, et autobiographique, mon cher Antoine, par le scénariste Steve Tezich, que vous affectionnez particulièrement, qui participa en 62 à cette course, en tant que suppléant dans l'équipe de David Blaze.
Oui, Steve Tezich, personnage assez fascinant, qui va faire le scénario de Georgia, d'Arthur Penn, qui est un film que j'aime beaucoup, mais qui va aussi faire le scénario du Monde selon Garp, et qui va faire un livre qui est un roman posthume, qui a eu énormément de succès, et qui s'appelle Carou. Et donc, dans la Bande des Quatre, puisque Breaking Away en français s'était appelé la Bande des Quatre, on retrouve un des thèmes qui sont très chers à Steve Tezich, qui sont le thème de, disons, la bande des bourgeois et puis la bande des fauchés dans une ville de province américaine. C'est en fait, sur ce plan-là, on peut dire que la toile de fond de la Bande des Quatre est très proche de la toile de fond de Georgia. C'est très autobiographique. Il y a un peu de tendresse sur l'Amérique qui peut parfois évoquer les frères Cohen, mais qui est posée avec un regard peut-être plus grinçant, celui de Tezich étant celui d'un immigré qui a rêvé le rêve américain et qui a souvent trouvé que le rêve américain était un peu décevant et un peu dur aussi. Et là, cette dureté, on la voit à travers le sport et à travers cette course folle menée par ces étudiants américains pour gagner cette course un peu bizarre sur un circuit. On est proche d'Indianapolis, donc ils font une espèce de course comme la course automobile d'Indianapolis, sauf que c'est sur un circuit beaucoup plus petit avec des vélos et c'est visuellement très étonnant.
Oui, c'est un morceau de bravoure réalisé par Peter Yates. On peut peut-être dire deux mots de Peter Yates, puisque voilà, il a été sans doute trop cantonné au succès de Bullitt et il prouve là, sur un très bon scénario, que il pouvait réaliser autre chose, des films sensibles. D'ailleurs, ce film a été apprécié à l'époque, hein, il a été nommé aux Oscars, Steve Tezich a remporté l'Oscar
meilleur scénario.
Du scénario et c'est ce que on pourrait mettre aussi en avant, c'est en effet la sensibilité de Peter Yates qui réalise donc aussi bien les scènes de voiture que les courses à vélo, très clairement. C'est un film en effet très drôle, enfin drôle, oui, par certains côtés, l'italianisation du personnage de Dennis Christopher recèle quand même des moments très, très cocasses, rythmés, sensibles, attachants. Et puis, c'est une sorte aussi de précurseur du teen movie qui deviendra un genre en soi et qui fera florès dans les années 80, notamment avec les films de John Hughes. Donc, à découvrir ou redécouvrir absolument dans les salles.
Glad we got fired from the A&P. I mean, right now, we'd be working.
Going to college must do something to girls' tits, I swear.
Not here!
Goddamn bastards! They're retards!
Buongiorno!
He was as normal as pumpkin pie.
Figaro, 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 Figaro!
His poor parents.
Buongiorno, Papa.
I'm not Papa, I'm your goddamn father.
There's that Heidi music again. I'm gonna have this out with him now.
Papa! Ciao, Papa!
I'll tell him he either has to get a job or go to college.
Now, who would ever hire a guy like that?
Wind up a bum. He'd ruin me if I hired him.
The only thing I'm afraid of is wasting the rest of my life with you guys.
I thought that was the whole plan.
that we were going to waste the rest of our lives together.
Ressortie, celle de L'Adieu aux Armes, A Farewell to Arms, première version réalisée par Frank Borzage en 1932, qui ressort le 14 novembre en version restaurée. Antoine avec Gary Cooper, Ellen Hayes et Adolphe Manjou. Nous sommes dans le nord d'Italie en 17. Hein, le lieutenant Frédéric Henry, joué par Gary Cooper, engagé volontaire américain dans le corps sanitaire de l'armée italienne, œuvre sur le front. Il porte assistance aux soldats alliés luttant contre les troupes austro-hongroises. C'est un osseur, tête brûlée, qui traverse avec une égale légèreté les dangers du front et les plaisirs de la vie. Jusqu'au jour où il rencontre une jeune infirmière britannique qui a perdu son fiancé au front.
Alors, c'est un film qui est tiré de Hemingway. Alors déjà, Hemingway n'avait pas forcément adoré le film qui avait été fait par Borzegui, qui est le vrai film fait par Borzegui est absolument sublime, hein, vous verrez.
C'est bien que vous me corrigiez sur la prononciation de...
Le personnage joué par Ellen Hayes, qui était une très grande actrice de théâtre, qui a fait relativement peu de cinéma, mais qui était une des plus grandes actrices américaines, est magnifique. Gary Cooper est formidable. Mais il faut savoir que ce film, qui est sorti juste avant l'édiction du code Hays, du code de censure américain, a été massacré ensuite par la censure, parce que c'est quand même un film dans lequel il y a une histoire de désertion, il y a une histoire d'enfants, de femmes qui se retrouvent enceintes hors mariage. Enfin bref, il y a tout ce que la morale américaine réprouvait à l'époque. Et donc, comme c'était un film qui avait eu énormément de succès, il a fallu continuer à l'exploiter après l'arrivée du code de censure, mais ça a été dans une version totalement expurgée, massacrée, qui durait une heure. Et pendant très longtemps, la version qui circulait, y compris peut-être pas en DVD, mais en tout cas à l'époque des cassettes VHS, était la version massacrée. Et donc là, évidemment, on a droit à une restauration de la vraie version du vrai film de Borzegui, qui est magnifique.
Qui est magnifique et qui comprend plus formellement des vraies inventions. Il y a ce plan, je retiendrai juste ce plan subjectif de l'entrée à l'hôpital de Gary Cooper, suivi du baiser d'Ellen Hayes qui envahit le cadre, photographié par le très grand Charles Lang, pour lequel d'ailleurs il remporte un Oscar. Donc c'est un film en effet absolument incontournable à redécouvrir dans les salles le 14 novembre.
What sort of a town is this?
Any girls?
Many beautiful English nurses. The most beautiful is Miss Barton.
How do you do?
How do you do? You're a grand girl.
I'm a crazy girl.
Why?
To stay out here.
Miss Barton prefers you to me. You like her?
No.
I wish you could do something really sinful. Everything we do seems so innocent and right.
You'll never get married.
We will.
No, you won't. We'll fight before you'll marry.
Oh, we never fight.
You've time yet.
We won't fight ever.
You'll die then. Fight or die. That's what people do.
I'm going to be away for a while.
Say I'll come back to Catherine.
I'll come back to Catherine. I'll always come back.
Un classique parmi les classiques, Drôle de frimousse, Antoine, de Stanley Donen, réalisé en 1957, ressort également dans les salles le 14 novembre.
Alors, c'est un des premiers films vraiment tourné à Paris, un des premiers films musicaux américains vraiment tourné à Paris, parce qu'évidemment, il y a une référence dans ce domaine qui est Un Américain à Paris, tourné quelques années plus tôt par Vincente Minnelli, mais ce film n'a pratiquement pas été tourné à Paris. Il y a des magnifiques studios hollywoodiens qui tiennent lieu de Paris. Là, non, c'est différent. Stanley Donen et son équipe, qui comporte notamment Fred Astaire et Audrey Hepburn, se transportent à Paris avec des morceaux de bravoure de cinéma et de comédie musicale tournés sur la Tour Eiffel et dans différents hauts lieux de Paris. Et puis, d'ailleurs, un autre morceau de bravoure dans un endroit beaucoup moins connu à la fin du film, qui se déroule dans un château au bord bord d'un lac qui se trouve au nord de Paris. Et c'est un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses du personnage d'Audrey Hepburn, puisque Audrey Hepburn joue dans ce film une libraire ou une bibliothécaire qui est très intellectuelle. Et à la fois, c'est cette intelligence qui fait sa beauté. Or, Audrey Hepburn, c'est bien une femme dont l'intelligence fait la beauté. Elle s'oppose, disons, aux femmes qui sont des femmes qui sont de pur sexe symbole. Audrey Hepburn, c'est tout à fait autre chose. Et en même temps, c'est quand même quand elle va se libérer de cet appareil intellectuel et aussi des existentialistes qui sont dépeints de manière très, très ironique et très drôle dans ce film, c'est quand elle va se défaire de cet attirail intellectuel et qu'elle va devenir une star de la mode, qu'elle accède quand même à une beauté radieuse. Donc c'est un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses de du rôle de l'intelligence dans la beauté et en même temps du fait qu'à un moment la beauté ça repose quand même aussi sur les apparences et que se libérer de la pure intelligence est aussi le moyen d'accéder à la beauté. Donc voilà, je trouve que c'est en grand amateur d'Audrey Hepburn, j'aime beaucoup ce film pour ça.
Et on termine cette partie ressortie avec Le Troisième Homme de Carol Reed, The Third Man, qui ressort en version restaurée 4K le 21 novembre avec Joseph Cotten, qui joue un écrivain américain qui s'appelle Holly Martins, qui arrive dans la Vienne occupée de l'immédiate après-guerre, invité par son ami Harry Lime, Orson Welles. Ce dernier vient de mourir dans un accident de la circulation. Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami, mais rien ne va le préparer à ce qu'il va découvrir. Avec également au casting, bien sûr, Alida Valli et Trevor Howard, sur un scénario de Graham Greene. Les versions divergent, parlons de cela tout de suite, hein, quant à l'implication réelle de Welles dans la mise en scène. On a d'ailleurs parfois attribué la réalisation du film à Welles lui-même, alors que l'acteur cinéaste a toujours admis, hein, assez honnêtement, le travail de Carol Reed, à part quelques suggestions de plans, hein, celui des doigts de son personnage agonisant à travers une grille d'égout. Alors, c'est vrai que si on analyse un peu le style visuel du film, qui est marqué par la profondeur de champ, les angles de caméra obliques presque systématiques, on ne peut pas toutefois s'empêcher de penser que Reed ait pu être influencé par Citizen Kane ou La Dame de Shanghai. Il y a l'anecdote de Welles qui a écrit la fameuse réplique du coucou que je vous laisserai redécouvrir à la vision de ce film. Welles qui d'ailleurs au départ avait accepté d'abord pour des raisons d'argent, car il en avait besoin pour achever son Othello. Il avait déjà à l'époque du mal à financer ses films. Il refusa d'être filmé dans les égouts de Vienne, prétextant des raisons de santé. C'est pourquoi ses gros plans ont été tournés en studio à Londres. Et les plans d'ensemble ont été tournés avec une doublure dans les rues de Vienne. D'ailleurs, il ne tourna qu'une semaine. Et puis, le film a pourtant la réputation d'avoir été principalement tourné en décor naturel, à l'instar des films néo-réalistes de cette époque. Il y a bien sûr, Antoine, la musique mythique d'Anton Karas que Carol Reed a rencontré par hasard dans un café de Vienne. Il lui a demandé alors de lui composer la musique, désormais légendaire, interprétée à la sitar. Et le film a été très bien reçu puisqu'il recevra la Palme d'Or à Cannes et un Oscar de la photographie pour Robert Krasker.
La composition par Anton Karas, qui était d'ailleurs pas du tout évidente, parce que donc Carol Reed rencontre Anton Karas dans un Wienstube de Vienne qui jouait de la sitar. Il dit c'est formidable et là il lui dit on va faire un générique, on va faire un air typiquement viennois et en fait Anton Karas c'était pas vraiment compositeur, il avait dans l'oreille toutes les musiques qui se jouaient à Vienne, mais bon on n'est pas dans la valse, on n'est pas dans il y a pas de repère précis et donc Anton Karas a été littéralement héliporté dans un studio d'enregistrement londonien par Carol Reed et donc tous les soirs Carol Reed venait le voir en lui disant alors est-ce que vous avez ma musique et en fait ça durait tous les jours et le pauvre Anton Karas n'arrivait absolument pas à composer la musique et il a été littéralement séquestré pendant plusieurs mois. Alors il était séquestré, il était payé quand même, il était dans un bel hôtel et évidemment ça le sortait un peu de sa vie viennoise et puis un jour finalement il a sorti cette musique absolument mythique du Troisième Homme qui a fait de lui une célébrité. Le pape a voulu le rencontrer. Il a même, à un moment, on lui a dit, il faut que tu ouvres toi-même le café qui sera le café d'Anton Karas et tout le monde viendra à Vienne pour aller écouter Anton Karas qui joue l'air du Troisième Homme à la sitar à Vienne. Ça a duré quelques années et puis à un moment, Anton Karas a dit, moi j'en ai assez, je suis pas patron de café, je suis pas star et il s'est remis tranquillement à aller jouer de la sitar dans les cafés des autres et il a terminé sa vie comme ça.
Et le film fascine toujours autant hein, par son atmosphère. manière morbide de fin du monde, ses cadrages expressionnistes et ses nombreuses séquences inoubliables. L'homme au ballon, je pense à cette scène en particulier, ou l'apparition bien sûr d'Orson Welles, le plan final. Tout cela est bien sûr à redécouvrir. Pour l'anecdote, le film est joué depuis des décennies dans le même cinéma de Vienne, le Burgkino, qui le programme très régulièrement. Donc ce classique de Carol Reed est à voir et revoir. Antoine, deux autres films de Carol Reed ressortent également dans les salles plus méconnues. Première Désillusion, réalisée en 1948, et L'Homme de Berlin, avec James Mason, réalisé en 1953.
Oui, deux très bons films. Carol Reed a fait plusieurs films avec James Mason. Il utilise très bien le personnage tragique de James Mason. Et puis, Première Désillusion, c'est un beau film assez tragique qui tourne autour de l'enfance avec deux acteurs magistraux qui sont Michel Morgan qui est peut-être dans un des tout meilleurs rôles de sa vie. Michel Morgan qui avait passé une partie de sa vie sans un énorme succès d'ailleurs aux États-Unis et qui là rentrant en Europe se retrouve en situation de jouer dans un film anglais où elle va parler anglais hein, puisque Carol Reed était anglais, et elle a comme acteur en face d'elle un autre monument du cinéma, cette fois-ci du cinéma britannique, qui est Ralph Richardson. Et donc c'est une histoire très 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 amère, très très angoissante, mais très belle, qui confirme que Carol Reed était un très grand cinéaste.
Donc très grand cinéaste, à redécouvrir dans les salles à partir du 21 novembre.
Is Mr. Martin engaged on a new book?
Yes. It's a murder story. It's based on fact. It's called The Third Man. Heard of Harry Lime?
Best friend I ever had.
So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories.
You never should have gone to the police, you know.
Come out, whoever you are.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.